Partenaire 2017. Le nouveau Tel Avignon Centre et le Beau Théâtre accueillent la web radio du HOF.
Osmose.
Osmose.
Osmose Radio.
La web radio du HOF.
Vous apprendrez bien vite qu'au théâtre, le meilleur se passe souvent en coulisses.
Être ou ne pas être au Festival d'Avignon, c'est la question qu'on peut se poser encore une fois.
Un œil en coulisses, l'émission qui débauche les artistes et les déloge le temps d'une heure.
Sous l'ardent soleil avignonnais qui illumine ce festival HOF 2017, il y a pourtant des pensées sombres qui s'agitent sous les crânes et des acteurs et du public et de leurs collègues et de tout ce petit monde, mais ils sont assez habiles pour savoir le dissimuler, sauf que certes parfois, ce sont des comédiens et que du coup, ce que nous on est censé dissimuler, eux l'exhibent, eux l'illustrent sur scène et après tout on ne s'en plaindra pas, si j'en crois le merveilleux spectacle auquel j'ai pu assister et pour lequel je reçois les acteurs. Bonjour messieurs.
Bonjour. Bonjour.
Alors vous êtes Polo Correa, vous interprétez donc un rôle d'un des personnages des séries fantastiques, une des premières histoires fantastiques d'Edgar Allan Poe, et vous, Grenon. J'arrive même plus à lire mon écriture. C'est vraiment la fin du festival. J'écris de plus en plus mal. Je vous prie de m'excuser.
Pas de souci.
Et vous interprétez, vous, un petit peu le personnage en contrepoint de ce monsieur Dupin, hein, pour ne pas le nommer, celui auquel on se réfère le plus, parce que vous êtes un petit peu paumé dans cette histoire, comme nous, on l'est dans le public. Et donc, vous êtes un duo de comédiens qui illustrait cette pièce, Marginalia, qui se joue à l'entrepôt tous les jours à 13h30 jusqu'au 30 juillet inclus. Alors, commençons un petit peu par le commencement, messieurs. Vous êtes les deux premiers membres, en fait, d'un triumvirat, parce qu'il faut aussi considérer votre collègue, la metteur en scène, Gaëlle Bogossian. Pardonnez-moi.
Là, c'est bien.
Non, ça, c'est bien. Je l'ai prononcé correctement ?
Ah, très bien.
Oui, ouais. Parce que non, mais en même temps, ce nom me fait rire parce que c'est pas lui faire offense que de soupçonner que son ancêtre arménien était un sacré beau mec, Bogossian. Mais toujours est-il que c'est, mis à part ce détail, c'est vrai qu'elle a fait très fort au niveau de la mise en scène parce qu'on aura l'occasion d'y revenir, mais il y a des trouvailles vraiment spectaculaires. Et vous-même, au milieu, vous n'êtes pas en reste, le duo de Polo Correa et Fabien Grenon. Donc, et alors. Vous vous êtes rencontrés il y a un petit peu plus de 10 ans. Je sais que vous, Polo Correa, vous avez commencé votre carrière d'acteur dans les années 90 et ce n'est pas votre première collaboration avec Gaël Bogossian, justement.
Non. En fait, on a créé le collectif 8 ensemble. On fait partie de la compagnie de théâtre. On l'a monté ensemble. Elle s'occupe plutôt des textes. Moi, je m'occupe plutôt de l'image. Donc, mm-hmm. Je fais les vidéos et tout ça. Et on est tous les deux comédiens, comédiennes. Et on est tous les deux metteurs en scène aussi. Donc, du coup, on alterne très souvent les mises en scène qu'on fait.
D'accord. Et j'ai trouvé en faisant des recherches sur votre compte, hein, comme un bon policier assermenté, puisqu'il s'agit d'enquête, j'ai trouvé que vous avez notamment travaillé autour d'un spectacle, une pièce de Yann Fabre notamment, il y a une dizaine d'années.
Oui.
Et de toute manière, ce n'est pas vos premières Avignon HOF, puisque ne serait-ce que l'an dernier, vous étiez tous venus avec une pièce de Denis Diderot, La Religieuse.
Oui, on avait créé la Religieuse l'année dernière, spécialement pour le Festival d'Avignon. On avait eu la chance de jouer. Au Chêne Noir l'année dernière, et cette année on a repris le spectacle à la Condition des Soies à 17h15.
Quant au spectacle pour lequel vous êtes ici aujourd'hui, Marginalia, c'est à l'Entrepôt, un théâtre qui lui aussi a la réputation de bien accueillir ses artistes.
Ah, formidablement bien, on a été super bien accueillis. C'est un spectacle qui demande énormément de prouesses techniques, puisqu'il faut monter la boîte assez rapidement. Il y a énormément d'effets visuels, de vidéos, de lumière. Donc il a fallu. Ouais, ils nous ont très très bien accueillis, ils ont été vraiment aux petits soins. Et on a même bénéficié d'un jour supplémentaire pour pouvoir de pouvoir finaliser le spectacle. Une création pour.
C'est une création pour le HOF. Hein,
ouais.
Et alors effectivement, le temps c'est de l'argent, surtout pendant les 3 semaines du festival HOF. Donc avoir un jour supplémentaire, j'imagine que vous avez dû apprécier. Quant à vous, Fabien Grenon, vous avez rencontré vos deux acolytes au début des années 2000 à Saint-Étienne, c'est bien ça ?
Tout à fait. Nous sommes issus de l'école de la comédie de Saint-Étienne. J'en suis sorti il y a donc maintenant 17 ans et Polo à peine avant.
Ouais, juste un peu.
Et ils sont venus me chercher pour un Faust qu'on a créé l'an dernier dans le sud, à Antea, théâtre d'Antibes.
D'accord.
Et voilà, c'était des sacrées trouvailles. Et ça se poursuit maintenant.
Et le collectif 8 lui-même est basé à Nice, c'est bien ça ?
Oui, tout à fait.
Et c'est marrant justement que vous parliez de Faust, parce qu'on sent la complicité entre vous sur scène. Et c'est vrai que vous-même, Fabien, vous incarnez un personnage un petit peu dépassé par les événements, en l'occurrence les événements de cette nouvelle assez singulière d'Edgar Allan Poe, et qui ouvre son recueil d'histoires fantastiques qui avait été traduit par Baudelaire au 19e siècle. Et vous êtes un petit peu le personnage dépassé par les événements, pendant que votre acolyte, Monsieur Dupin, qui est aussi un petit peu votre némésis, lui, par contre, arrive à pénétrer la psychologie des personnages et des criminels en l'occurrence, et arrive à reconstituer les événements sans y avoir assisté. Et du coup, vous êtes tellement dépassé un petit peu par la subtilité de ces raisonnements que du coup, ben, c'est vous qu'on est amené à suivre finalement, parce que vous êtes le plus proche de nous dans le public, et on s'en retrouve, comme souvent au théâtre, on se fait gentiment manipuler, mais alors, quel bonheur. Alors voilà, donc tout ça pour dire que par contre, vous êtes capable d'inverser les rôles, puisque vous jouiez tantôt l'un Faust, tantôt l'autre Méphistophélès, hein, le manipulé, le tentateur, etc. Et donc, j'imagine que ça a contribué à créer ce jeu entre vous, non ?
Ah oui, dans la vie, je me fais rarement dépasser. C'est un pur rôle de composition.
Non, c'est vraiment super agréable. C'est comme ça, un spectacle très ludique et virevoltant, comme ça, c'est vrai que c'est bien de s'entendre correctement, et avec Fabien, ça se passe très très bien.
Alors,
oui. Je ne saurais mieux dire.
Par contre, dans la vie, on n'arrête pas de se chercher. Oui.
Ah, voilà. Bon, après, cela ne nous regarde pas, comme je disais. Mais par contre, bon, ce qu'il y a là où ça nous regarde, c'est quand vous êtes sur scène, et à l'occasion, vous nous regardez aussi. Et c'est vrai que le thème, manifestement, le thème fétiche du collectif 8, et sans doute aussi le vôtre par conséquent, c'est vraiment les nouvelles fantastiques, les univers oniriques. Et votre production s'en ressent. On parlait de La religieuse de Diderot à l'instant. Bon, certes, ce n'est pas une nouvelle fantastique, évidemment, mais c'est quand même un thème un petit peu marginal pour l'époque. Je pense aussi à L'homme qui rit de Victor Hugo, qui beaucoup plus tard a incarné, a inspiré à Bob Kane le personnage du Joker dans Batman, par exemple. Je pense aussi à Alice au Pays des Merveilles, enfin beaucoup de Faust, vous veniez de le dire à l'instant. Vraiment, ces univers fantastiques vous tiennent à cœur manifestement. Comment vous, jeunes gens, quand vous étiez plus jeunes, vous avez découvert ces univers-là, et notamment l'œuvre d'Edgar Allan Poe? Parce qu'on a tous, pour peu qu'on soit, on ait de l'intérêt pour la littérature fantastique, on a tous un aspect particulier, un souvenir du contact avec la littérature de cet homme-là. Vraiment, curieusement, je ne sais pas pourquoi, moi j'ai mon souvenir, et quand je parle de ça aux gens qui s'intéressent à cet auteur, hein, on peut aussi s'en foutre, eh bien ils ont tous un souvenir précis de comment ils l'ont découvert. Du coup, ma question est très simple, comment vous l'avez découvert?
Moi, j'ai eu la chance, à un moment donné, de jouer dans un spectacle d'un autre metteur en scène sur Lyon, qui avait monté Les Histoires Extraordinaires.
Et donc, d'accord.
Du coup, comme je suis un comédien qui aime bien s'immerger, plus ou moins, en tout cas, lire tout ce qui se passe autour de ce sur quoi je suis en train de travailler, j'avais énormément lu à l'époque, parce que le souvenir que j'en avais de l'école était moins intéressant, je pense. Mais quand on est un peu plus adulte et qu'on s'intéresse au personnage, à ce qu'il a écrit, mais à ce qu'il n'a pas écrit aussi. Par exemple, là, Marginalia, il y a plein d'annotations qu'il écrivait dans les marges des livres qu'il achetait. C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas que le double assassinat de la rue Morgue, il y a aussi des traits d'esprit de Edgar Poe. Et moi, je l'ai découvert comme ça. C'est-à-dire que... Et puis, la chose la plus importante pour nous dans le collectif, c'est que, comme on travaille avec de la vidéoprojection, pour nous, c'est important que la vidéoprojection naisse non pas de vouloir absolument mettre de la vidéo, mais de la dramaturgie. Et le fantastique permet ça. C'est-à-dire que comme on est dans quelque chose de plus onirique, la vidéoprojection part de quelque chose de mental et non pas de quelque chose de symbolique ou représentatif. Quoi. C'est pas pour remplacer un décor, en fait. Ça vient toujours d'une dramaturgie. Donc, du coup, Edgar Poe est un des auteurs qui nous poursuit, parce que ça fait déjà deux spectacle qu'on monte sur lui. On avait déjà monté les nouvelles histoires extraordinaires dans un truc un peu déambulatoire où les gens pouvaient marcher, aller rencontrer des comédiens des endroits différents d'un village. Et puis là c'était... on voulait revenir à quelque chose de plus ludique, voilà, avec le Marginalia.
D'accord, donc finalement une mise en scène plus classique, une installation plus classique, puisqu'on n'est pas censé bouger. Mais effectivement, on y reviendra, le jeu des vidéos est tout à fait spectaculaire et nous immerge dans l'action peut-être de la même manière. Et quant à vous, Fabien ?
Pau. Alors, moi, j'étais au lycée et j'étais fasciné par tout ce qui était littérature fantastique. Donc, j'avais commencé par le Horla, moi, Maupassant, parce que je devais lire Bellamy et ça m'embêtait. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a écrit de mieux ? Alors, quand on est jeune et qu'on est fasciné par les monstres, le Horla, c'est terrifiant. Ensuite, Prosper Mérimée. Ensuite, Stephen King aussi, pourquoi pas. Et Pau, en l'occurrence, Le Masque de la Mort Rouge, La Chute de la Maison Usher, des choses comme ça. Et là, d'un seul coup, on commence à lire cette histoire où il y a un meurtre et clairement, on se dit, il y a un élément surnaturel. Et non, en fait, il n'y en a pas. Alors j'ai été hyper déçu, mais ça m'a donné le goût, par contre, de la littérature policière. Et après, j'ai enchaîné sur Conan Doyle, Sherlock Holmes et Watson, qui est arrivé après, en fait. Le précurseur, c'était Poe là-dessus.
Ça alors, vous êtes une des rares personnes à ne pas avoir découvert Poe grâce à cette nouvelle, justement, qui ouvre les histoires extraordinaires traduites par Baudelaire à l'époque, au 19e siècle, le double assassinat dans la rue Morgue. Et effectivement, comme vous le précisiez, cette nouvelle, finalement, est vraiment un élément précurseur en littérature de ce qui a préfiguré au 20e siècle le roman noir, le thriller, le polar. Et c'est vraiment l'ancêtre, et il l'a sans doute écrit sans faire exprès, sans y penser, mais il y avait déjà tous les ingrédients tous les éléments qui permettent d'élaborer de bonnes histoires policières telles qu'on les dévore aujourd'hui au cinéma ou en littérature ou en théâtre un petit peu grâce à vous. Alors je parlais des éléments de mise en scène de votre collègue Gaël Bogossian, et c'est vrai que vous utilisez beaucoup la vidéo, et pour ne rien vous cacher, pour ma part, j'ai ressenti de prime abord deux choses. Il y a un rideau derrière lequel on distingue vos silhouettes, et sur ce rideau sont projetées une écriture en fait à la machine à écrire, et on entend le cliquetis de la machine à écrire qui nous apparaît très vintage aujourd'hui, hein, puisqu'on a l'air des ordinateurs, et en fait ce qui est écrit en fait m'a beaucoup plus inspiré Lovecraft, l'auteur américain Lovecraft, que Edgar Allan Poe, parce qu'en fait le sens du texte qui nous est aussi récité en voix off je vais bientôt mourir, mais je voudrais pas que mon histoire disparaissent, du coup je vous la raconte et attention, ça va être horrible, etc. Enfin, c'est vraiment des astuces de littérature qui sont propres à Lovecraft, mais en même temps, Lovecraft était un grand admirateur d'Edgar Allan Poe, donc on retombe sur ses pattes.
Je pense aussi, ouais.
Et un deuxième élément qui m'a intrigué, alors là peut-être qu'il vous sera inconnu, mais pour ma part, j'ai eu l'occasion de jouer dans les années 2000 à des jeux vidéo dans lesquels fallait mener des expériences policières, des enquêtes policières, il fallait traquer des serial killers, tout ça, et ça utilisait les mêmes éléments utiliser le son, l'image, etc. pour nous immerger dans une enquête. Bon, là c'était par le truchement d'une création vidéoludique, mais c'était peu ou prou un petit peu les mêmes astuces que vous.
Donc, mais moi je ne m'en cache pas, j'adore les jeux vidéo, je joue très souvent, et puis aussi le cinéma. Enfin, je veux dire, on emprunte énormément au code du cinéma, le jeu vidéo emprunte aussi au cinéma, et puis tout ça se mélange et tout ça. On a un théâtre, oui, effectivement, qui mélange les genres. Ouais.
Et par rapport à Lovecraft, oui, je suis d'accord avec vous. La pièce commence par un homme seul qui dit qu'il a des visions et qui voudrait des visions qu'il appelle des ombres d'ombre et dont il voudrait laisser la trace sur le papier. Chez Lovecraft, quand il essaye de décrire Cthulhu, par exemple, il le décrit par morceaux, mais il est par nature indescriptible. Et c'est cette nature indescriptible que l'auteur voudrait retranscrire sur le papier, au début et à la fin du spectacle. Donc oui, il y a quelque chose de Lovecraft, c'est pas idiot.
Mais il se garde bien de le décrire justement pour nous faire flipper encore plus.
Évidemment.
Chenapan. Et bien, vous avez repris ce principe justement pour l'appliquer à la scène. Et là, le rideau tombe, sur ce rideau sur lequel était projetée cette écriture à la machine à écrire. Et là, il y a quand même un bel effort de mise en scène. Et vous parliez tout à l'heure de monter la boîte. Et bien, c'est au sens propre. Et parce que, effectivement, on se retrouve dans une espèce de caisson. Il n'y a pas le quatrième mur qui nous permet de vous voir, et du coup on se retrouve un petit peu dans une boîte qui évoque une chambre nue, hein, une chambre de bonne, enfin un appart très sommairement meublé, on va dire, et il y a des éléments amovibles qui sont des piles de livres avec lesquels vous ferez un petit peu tout, vous reconstituerez une cheminée par exemple un peu plus tard dans la pièce pour vous figurer la chambre, la pièce dans laquelle a eu lieu le meurtre, ce double assassinat dans la rue Morgue, hein. Mais bon, Maigret n'était pas encore disponible à l'époque, donc c'est Dupin que vous incarnez, Polo, qui va s'en charger, et son acolyte. Et alors là, donc il y a des tas d'astuces de mise en scène, des projections qui donnent un effet de profondeur à cette pièce, dont je ne connais pas les dimensions, mais ça, c'est des détails techniques, ça ne nous regarde pas. Et pour autant, il y a cet effet non seulement de profondeur, mais de claustrophobie par rapport aux perspectives que vous utilisez. Donc, les morceaux de bois que vous avez assemblés, plus les projections de votre collègue en aval, et tout ça nous donne vraiment des éléments saisissants. Ça a demandé combien de temps de travail et d'élaboration? tout ça?
Alors la boîte en elle-même, c'était dramaturgiquement parlant, Gaël était parti sur le fait que Edgar Poe avait peur d'être enterré vivant. Il avait une peur bleue de pas mourir et d'être enterré.
D'accord.
Et donc du coup pour elle, ce personnage qui se retrouve dans cette boîte, pour elle c'est vraiment presque un cercueil en fait. Il est en train de mourir, d'où la première phrase du texte. La construction du décor, elle, a été supervisée par les ateliers du théâtre de Nice. Donc du coup, c'était plutôt assez simple puisque voilà, l'intérêt de cette boîte, c'est qu'il n'y a aucune ligne horizontale et aucune ligne verticale. Donc ça fout un peu la gerbe au départ. Pour nous, en tant que comédien, quand on joue dedans, il faut l'apprivoiser puisque tout est tordu.
Ça nous fait des chevilles dans
ça. Oui, des mollets.
Mais je croyais bien que la réflexion m'est venue à l'esprit en vous voyant.
Ouais, c'est cette contrainte nous oblige aussi à avoir un corps en fait. Et c'est ce que Gaël défend toujours, c'est qu'il faut avoir un corps sur un plateau.
Des corps de beau gosse.
De beau gosse. Et ensuite, toute la vidéo en fait, elle est venue toujours pareil de la dramaturgie. Moi, j'ai mis à peu près, on va dire, un mois à créer l'ensemble de toutes les vidéos. En sachant que de toute façon ça se construisait au fur et à mesure que nous on cherchait les situations des scènes, puisqu'il a fallu, comme c'était une réécriture, c'est pas vraiment l'œuvre à proprement parler, puisque Gaël a fait une adaptation, donc du coup on a gardé certaines choses, on en a mis d'autres de côté, donc ça a été une sorte de gros puzzles qu'il a fallu assembler et on a jeté plein de choses, on a continué à travailler même ici sur Avignon pour que les spectateurs puissent suivre cette aventure, enfin cette sorte d'enquête policière dont nous ne dirons pas qui a tué les deux dames, mais en fait on s'en fiche un peu. Je crois. C'est pas tellement le fait de résoudre l'énigme qui est important, c'est comment ils le font et la complicité en fait de ces deux personnages qui sont peut-être même qu'un seul.
Oui, deux lobes d'un même cerveau, c'est possible, en l'occurrence celui d'Edgar Allan Poe. Alors effectivement, je voulais en venir aux astuces de mise en scène de votre collègue, parce que ce texte est un texte littéraire, une nouvelle, mais il a fallu l'adapter au théâtre par ces trouvailles de mise en scène que je citais à l'instant et qui vraiment donnent un résultat spectaculaire et qui sont tout à fait originales, qu'on a dû demander du travail, d'où ma question, mais aussi par d'autres adaptations qui utilisent des projections, par exemple, mais pour donner cet aspect littéraire, finalement. Eh bien, on a au début chapitre 1 qui est tapé à la machine à écrire, qui nous est projeté, qu'on peut lire. Et puis un petit peu plus tard, au lieu d'être découpé en actes et en scènes, finalement, votre pièce est découpée en chapitres comme une œuvre littéraire.
Jusqu'à la résolution, en fait.
Voilà. Et un autre truc, c'est que vous avez déplacé l'action. Alors là, peut-être que je pinaille un peu. Vous avez déplacé l'action en 1899. Un peu plus tard que celle à laquelle elle a été écrite. Et il y a un autre truc qui donne un aspect plus contemporain, c'est dans les projections que vous avez élaborées justement, vous avez d'autres acteurs qui parlent de leur témoignage. Donc il y a eu un meurtre, la police interroge les passants, qu'est-ce que vous avez entendu, parce que personne n'a vu la scène de visu, mais qu'est-ce que vous avez entendu, et chaque personne donne son point de vue. À partir de là, on a des éléments pour les policiers qui vont travailler dessus. Mais justement, chaque personne donne son point de vue et elle est interviewée comme on le verrait au journal télévisé. Et ça, c'est un procédé contemporain impliqué à une histoire ancienne.
Oui, oui, bien sûr. Oui. Enfin, tout ça dans un journal, tout ça, c'est... Après, j'avoue, hein, moi, je cite mes sources. Hein, ça vient de Harry Potter. Hein. C'est ce journal qu'on ouvre et où tout d'un coup, une photo s'anime. Puis c'est tout aussi l'émancipation, en fait, le fait de se projeter dans le futur. Edgar Poe était assez incroyable parce que déjà à son époque, il rêvait d'un ordinateur. Alors il ne l'appelait pas ordinateur, mais il était en cheville avec des mathématiciens et il rêvait d'une sorte d'objet qui pourrait calculer les choses et pouvoir même presque les imprimer pour avoir le rendu du calcul. Donc ils avaient déjà cet état d'esprit, mais comme un peu tous les visionnaires, comme un peu comme Jules Verne, comme tous ces Méliès. Enfin, pour en revenir aux vidéos, c'est vrai que moi je me suis énormément inspiré de Méliès, des Frères Lumière, c'est-à-dire du tout début de, comme c'est un tout premier roman avec un inspecteur, enfin avec un justement non pas un policier qui mène une enquête mais un civil comme on va avoir bien après Sherlock Holmes, mais c'était toutes les premières fois, donc on s'est basé vraiment sur tout ça, le cinéma de Méliès, l'ordinateur, les premières machines à écrire, enfin tout.
Monsieur Dupin, ce n'est pas parce que vous lisez dans la psychologie des criminels et dans leur esprit que vous pouvez vous permettre de lire dans mon esprit d'intervieweur à moi, parce que là vous m'avez grillé ma prochaine
merde.
Question.
Je ne l'ai pas fait exprès.
Non, je vous taquine. Mais effectivement, la référence à Méliès est très bien trouvée, déjà parce qu'il y a certains de vos co-religionnaires en théâtrologie qui font un très très bon spectacle en ce moment sur Méliès, mais aussi parce qu'effectivement vous déplacez l'action dans les années 1890, et pour ça il vous faut une bonne raison. Effectivement, il y a des tas d'aspects sur l'ambiance, etc., qui nous ramène à la fin du 19e siècle, à la belle époque, et pas à l'époque où Edgar Allan Poe a écrit cette nouvelle. Donc finalement, on tolère tout à fait cette petite dissonance.
S'est permis de faire ça pour la simple et bonne raison qu'en fait, Edgar Poe n'a jamais été à Paris. Il n'a jamais mis les pieds à Paris. Donc Il invente complètement un Paris qui pour lui est
fantasmé
absolument. La rue Morgue n'existe pas à Paris. C'est-à-dire que là où se passe l'action, c'est une pure invention de son esprit. Et puis il y a une deuxième chose aussi qui nous a permis de faire ça, c'est qu'à un moment donné, ça c'est une scène qu'on n'a pas gardée mais du roman initial, mais les deux protagonistes se baladent et ils refont un peu le chemin qu'aurait pu faire l'assassin, entre guillemets, et en fait, on se rend compte que ce n'est absolument pas possible. Il aurait fallu à peu près, une demi-journée et eux, ils le font en 10 minutes. Donc en fait, Edgar Poe, lui, se laisse complètement aller à son imagination. On s'est dit, ce serait bien aussi que nous aussi, on prenne cette chose-là et que, plutôt que de se contraindre dans une époque, d'être à l'orée en fait, des choses qui vont apparaître était plus intéressant pour nous que le vérisme de l'époque à laquelle la nouvelle a été écrite.
Effectivement, c'est un petit anachronisme effectivement qui est plutôt le bienvenu en l'occurrence. Et alors je reviens encore à vos astuces de mise en scène, et pour conclure là-dessus, il y en a un qui m'a vraiment intrigué et qui est très très bien foutu, si je peux me permettre. C'est-à-dire que vous êtes debout, on sait que vous êtes debout sur la scène, mais les effets de projection nous donnent l'illusion que vous êtes allongé et que vous êtes tous les deux en train de glandouiller en écoutant de la musique ou au milieu de vos bouquins. Et voilà, comme deux vieux garçons, Bouvard et Pécuchet, mais façon Edgar Allan Poe, en train de disserter sur ceci ou cela, et c'est quand même très très bien trouvé quoi. Et là je demande, j'imagine qu'avec entre le jeu de la mise en scène et des décors, avec tous ces tiroirs que vous tirez, etc., pour reconstituer les décors et les événements, c'est quand même un très très beau travail de mise en scène. Mais moi je parle du côté un petit peu laborieux parce que ça m'intrigue, mais je précise aux auditeurs que quand on est dans le public, quand on est face à la scène, c'est un côté absolument magique et magistral, pour ainsi dire. Et pour en revenir à l'histoire, parce que moi je connais cette histoire et très égoïstement j'ai oublié de la résumer, mais comme vous le disiez tout à l'heure, on ne racontera pas la fin, hein, on va laisser le plaisir de la découverte aux auditeurs qui seront sans doute dans le public d'ici peu. Mais c'est même l'histoire d'un double assassinat, enfin il y a deux personnes qui se font meurtrir dans la rue Morgue, hein, c'est ça, qui n'a jamais existé. Parce que c'est un peu compliqué à dire. Et donc voilà, il y a ce personnage Dupin qui préfigure les grands détectives du XXe siècle, Marlowe, Maigret, etc., etc. Et donc, comme je le disais, le double assassinat dans la rue Morgue est vraiment le roman précurseur, la nouvelle en l'occurrence, le texte précurseur des thrillers, des polars et notamment des romans noirs. Mais en tout cas, merci à tous les deux, Paulo Correa et votre collègue Fabien Guenon, qui incarnait
Guenon. Guenon, ça me va, venez voir le spectacle, vous comprendrez pourquoi.
T'en dis trop. C'est un lapsus révélateur, en fait. Tu ne veux pas dire qui a assassiné, mais on y est presque.
On ira dans les toilettes voir lequel de nous deux a le plus de poils sur le torse, et vous perdez, mon petit monsieur. Ça, soyez-en sûr. S'il y a une Guenon ici, c'est moi. Non, mais vous n'allez pas me griller comme ça. Donc, Paulo Correa et Fabien Guenon, pour être venus présenter ce spectacle, élaboré avec votre collègue Gaël Bogossian au sein du collectif 8. Marginalia, alors une dernière question tout de même. Vous en avez donné un petit élément d'explication, mais j'aimerais en savoir plus. Pour moi, c'est double assassinat dans la rue Morgue, et c'est le texte que vous avez adapté pour la scène. Mm-hmm. Mais Marginalia, pourquoi avoir donné ce nom ?
Parce que, en fait, le tout départ, c'est que c'est un recueil en fait de notes qu'avait écrit Edgar Poe, qui ont été retrouvées dans ses livres, dans les marges de ses livres. Et donc, du coup, c'était quelque chose qu'il adorait faire. Il disait qu'il achetait des livres avec des grandes marges, peu importe ce qu'il lisait, mais des livres avec des grandes marges pour pouvoir y noter des choses. On a retrouvé comme ça énormément d'écrits de Edgar Poe. Il écrivait sur Victor Hugo, il écrivait sur sa façon à lui aussi de voir le monde, des difficultés qu'il rencontrait aussi dans l'écriture, puisqu'il a été très très peu publié de son vivant en fait. Il avait son journal, mais c'est Baudelaire en fait qu'il a révélé surtout en France, et donc c'était en fait tout part de là, d'un type qui est enfermé dans un lieu pas défini, qui essaye d'écrire quelque chose, comme Edgar Poe a essayé toute sa vie d'écrire des choses, et donc Marginalia vient de là, des choses qu'on écrit dans les marges des livres.
Et puis les marges des aspects de votre spectacle sont tout aussi intéressants. Vous parliez de l'électronique et de l'informatique à l'époque, au 19e siècle. C'était quand même... quand vous replacez l'histoire à la fin du 19e siècle, on pense au métier Jacquard, on pense aux premières machines à calculer des ingénieurs britanniques de l'époque, on pense à Jules Verne qui lui aussi fantasmait beaucoup là-dessus, etc. etc. Donc c'était une très bonne intuition que vous avez eue. Et enfin, pour conclure là-dessus, pour votre décor qui m'a fortement impressionné, ces murs en bois dont toutes les lignes sont diagonales, hein, pas de verticale, pas d'horizontale, et bien nous ramène aussi un peu à cette impression de claustrophobie du cercueil, hein, cette boîte en bois dans laquelle on finira tous et qui faisait particulièrement peur à l'auteur Edgar Allan Poe. Bon, en tout cas, merci messieurs d'être venus nous parler de ce spectacle qui se joue, je le répète, à 13h30 à l'entrepôt tous les jours jusqu'à dimanche 30 juillet. Ça se passe bien pour le moment ?
Ça se passe très bien.
Merci beaucoup.
Ben écoutez, pourvu que ça dure, et je tiens aussi à souligner la qualité des visuels, parce que les affiches qu'on peut croiser dans les rues du festival ont des photos réellement soignées et qui nous mettent déjà un petit peu dans l'ambiance.
C'est l'œuvre de Dupin.
Et ben tiens, pour nous mettre dans l'ambiance justement, ben on parlait de double assassinat dans la rue Morgue, et bien on va continuer et conclure cette émission avec un morceau du groupe rock Cult of the Psychic Fetus, tout de suite, The Morgue.
Oh,